Microfilm. Microfilm, bonsoir. Pendant 15 jours, c'est-à-dire deux émissions, Microfilm aura la fierté de faire entendre l'une des plus belles voix du siècle, l'une des voix les plus enjôleuses et les plus convaincantes qui ait jamais résonné dans le cinéma français, celle de Jean Rouch. Les raisons sont très nombreuses. L'une des plus évidentes, c'est que, assez étrangement, Rouch n'est jamais venu à cette émission et on a plutôt souvent dû parler de lui au passage, parce qu'il est quelque part un peu dans l'arbre généalogique du cinéma français à une place unique et irremplaçable. L'autre raison est plus bête, c'est que les films qu'il fait ne sortaient plus commercialement, comme on dit, donc étaient vus, pas vus, des fois entrevus à la télévision, et on avait perdu de vue, disons, le fil d'une œuvre commerciale normale. Or, s'il y a quelque chose qui ne s'applique pas à Rouch, c'est bien le mot normal. Donc, là, on a une petite excuse dans l'actualité, c'est que il va certainement être projeté, plutôt diffusé, à la télévision, sans doute dans Océanique, mais c'est pas encore absolument certain, un film dont le titre est tout un programme, Liberté, Égalité, Fraternité, et ensuite, ou et alors, ou et après. Toi-même, tu dis que tu n'es pas encore fixé sur la...
J'aime pas et après.
Et après fait un peu hystérique.
Et puis, phoniquement, c'est pas joli. Mm-hmm. Et puis ensuite, peut-être, c'est mieux. Mais tu vois, c'est... Enfin, je ne sais pas, ça, c'est un petit détail, puisqu'on fera ça. Pour le moment, c'est liberté, égalité et...
Fraternité, non, il n'y a pas fraternité.
Fraternité et...
Voilà, donc le film a été commandé comme d'innombrables objets culturels pendant cette année du bicentenaire. Il fait partie de la même commande que le film de Johan van der Koeken dont on avait parlé ici même dans cette émission qui s'appelle Le Masque, qui est déjà sorti, enfin qui a déjà été montré à la télévision. Donc ça va être en 90, donc malgré le fait que ça ait été fait pour le bicentenaire, tu seras un an après, donc voilà, bon,
c'est pas
et
grave.
Après.
C'est pas grave.
La première question comme ça, bon... qu'on peut te poser, c'est a priori le nom de Rouch est plutôt lié à une idée d'insolence voyageuse et de quelqu'un qui n'est jamais là vraiment où on l'attend et qui n'aime pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, les discours, les choses officielles, les notables et tout. Et puis là quand même, sur le bicentenaire, tu as répondu présent. Et puis quand on réfléchit un petit peu quand même à ton cinéma, maintenant on le connaît un peu, belle idée de la commémoration, l'idée qu'il reste quelque chose, l'idée du cérémonial, du rituel, n'était vraiment pas étrangère. Donc, est-ce qu'après tout, il y avait dans cette histoire, alors purement française, 89, même si toi, tu le racontes à travers l'histoire des esclaves, de leur libération, quand même l'envie d'être l'un des griots de cette histoire-là, de ce mythe-là?
Bah, oui, tu as dit le mot griot, effectivement. L'idée, c'était le point de départ était comment... deux jeunes Africains, une fille et un garçon, réagissent devant la commémoration du bicentenaire. Et si tu veux, d'abord le choix de ces acteurs et auteurs, car ils improvisaient comme nous tous, était basé sur le fait que l'une, Tamsir Dweb, est la fille d'un de mes vieux amis de Dakar, qui est un des grands historiens de l'histoire de l'Afrique occidentale, Djibril Tamsirnian, et que j'avais réalisé un film avec elle il y a 3 ans qui s'appelait Bac ou mariage, boulevard d'Afrique, qui est une comédie musicale assez enjouée. Le deuxième, Brice Aounou, fait avec Marc Ferraud et moi-même une thèse sur le sujet suivant: rupture des relations diplomatiques entre Haïti et la République du Bénin, par suite du tournage du film Les Comédiens de Glanville, d'après le roman de Graham Greene, à Cotonou, parce que le film était interdit à Haïti. Et depuis 25 ans, il n'y a plus aucune relation entre les deux. Donc, il avait une vision formée par Marc Ferro, qui est assez caustique, étant devenu tour à tour le grand reporter du Nouvel Observateur, je prends ma respiration, d'Haïti. Et ensuite, maintenant, rôdant autour de Jeune Afrique et devenant l'un des meilleurs spécialistes de la politique particulièrement confuse d'Haïti, ayant, lui, la base béninoise, c'était pour moi, c'était un excellent couple et qui risquait d'être drôle et amusant, et je dois dire que l'on s'est bien amusé. Alors, c'était très simple. Lorsque la mission du bicentenaire m'a demandé de faire ça, j'ai proposé tout de suite liberté, égalité, fraternité, sans savoir très bien ce que ça voulait dire. Bon, liberté, c'était facile, parce que on plantait des arbres de la liberté, il y a un peu plus d'un an, et nous avons choisi une mairie en signalant que nous arrivions et qu'on sèmerait un petit désordre en demandant de remplacer le peuplier d'Italie qui allait être planté par le maire par un cèdre du Liban. Et nous venions là avec en plus un Libanais qui était peintre et spontanément sous la pluie a commencé une approche assez bizarre et dans laquelle l'idée était les peupliers sont libres en Italie, les cèdres ne sont pas libres au Liban. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Et le peintre a récité un très beau texte sur ce que doit être cet arbre de paix. Et c'était notre idée. Et ceci se passait dans un petit village tout près de Meaux, dans l'abri, avec une pluie qui n'empêchait pas l'enthousiasme. On était trempés. Hein. Le maire avait un parapluie. Petit à petit, il se dégageait. Fifi a improvisé en Peul une Fifi Tamsir Dweb a improvisé en Peul une chanson qui était le baptême de l'arbre. Arbre, je te baptise roi de la liberté, et que sous ton ombre la liberté soit donnée à tous les hommes. Et les enfants des écoles ont chanté le chant du départ. Alors on avait tourné deux bobines, on avait tourné 20 minutes à deux caméras. Je suis rentré, j'ai vu cela, c'était un peu maigrichon. Mais en même temps, dès le lendemain, car une sorte de coïncidence, les combats de Beyrouth ont repris. Autrement dit, c'était un peu un signe du destin, on touchait à quelque chose, et on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Alors là, on avait décidé de passer directement dans le merveilleux, ce que j'aime beaucoup, et on est revenu 15 jours après avec un arbre plus grand qui avait 2 mètres, et notre idée à ce moment-là était de revenir viser ce visage de temps en temps, jusqu'au moment où le cèdre du Liban est 25 mètres de haut. Un de mes assistants, Walter, avait trouvé un fournisseur de cèdres du Liban de toutes dimensions, on pouvait les louer et les remettre, etc. Et là, nous sommes revenus dans le village. Le peintre avait peint un tableau naïf sur le cèdre du Liban. Les enfants des écoles avaient peint, eux-mêmes avaient fait des dessins et des peintures. Et c'est une sorte de bilan et dans lequel Tamsir Dweb donnait une petite leçon de chant et apprenait les chants africains sous la pluie. Il y avait la pluie et il y avait une atmosphère très singulière et que j'aimais bien. Bon, c'était le début. Alors, nous sommes restés sur ce film, on a attendu l'événement suivant. L'événement suivant, c'était la constituante à Versailles. Alors là, je ne savais pas très bien quoi faire, et puis j'apprends qu'il y avait une mise en scène pour la télévision, où on reconstituait le discours fait par Mgr Lafare au roi. C'est le semonce dite par Mgr Lafare, et que dans les suivants, il y avait l'abbé Grégoire. l'abbé Grégoire, vieux prêtre ouvrier de la liberté des Noirs, vieux combattant pour l'esclavage, personnage très étonnant. Je rencontre les deux comédiens qui jouaient Monseigneur Lafare, l'abbé Grégoire, et l'abbé Grégoire est prêt à démarrer une petite improvisation avec l'idée que, à la fin du discours de Monseigneur Lafare, qui représentait d'ailleurs la fin de cette émission, donc je ne dérangeais personne, deux personnages habillés en costume d'époque et venant de Saint-Domingue venaient dire « Vous savez très bien, vous avez parlé des gens de couleur et vous n'avez pas parlé des Noirs, vous n'avez pas parlé des esclaves, vous n'avez pas parlé des femmes. » Tout ceci était dramatisé. Nous avions déjeuné avec celui qui jouait l'abbé Grégoire, parce que pendant le déjeuner, on venait d'apprendre ce qui s'était passé en Nouvelle-Calédonie. Donc, une fois de plus, au moment où le film se faisait, il y avait un écho. Et donc, le discours de nos visiteurs prenait un sens beaucoup plus singulier. Et Monseigneur Lafare les bénit, découvre que Raliatou, la fille, était musulmane. Et quand il pose la question de la liberté, ils répondent « Il faudra 200 ans ». Et la réponse, dans 200 ans, jour pour jour, il y aura à nouveau le sang qui va couler pour la liberté. Il ne disait pas quoi. Alors on s'est arrêté là, et là, je me suis dit, il faut quand même rendre la chose un peu plus sérieuse. Et découvrant dans le palais de Versailles, dans les salles de conservation des grands tableaux, un portrait de Bélé, qui est un ancien esclave du Sénégal, qui était un des premiers membres noirs de la Constituante, qui avait été envoyé à 2 ans venant du Sénégal. Il arrive à Saint-Domingue, il est affranchi, et il joue un important rôle politique. Et il y a un merveilleux tableau de lui, dans lequel il y a une immense mélancolie, à côté de Rénal, l'un des combattants du siècle des Lumières. Et là, je décide de rentrer dans le tableau, c'est-à-dire que ces gens allait devenir, donc Brice et Raliatou allaient devenir le marquis de Saint-Domingue et l'autre Raliatou, la captive de Tombouctou, que d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, Brice, qui n'était pas très gentil, dit en la présentant à Bélé, je suis venu avec elle pour essayer de la vendre au roi. Ce qui n'est quand même c'est pas du tout prévu dans l'histoire. Et nous avons donc mis cet élément qui nous permettait de rentrer dans l'aventure. Bon. Alors, liberté, égalité étaient faits, on avançait doucement. Et fraternité, on avait l'intention d'aller à Gorée, dans l'île où sont partis les esclaves d'Afrique occidentale, pour tourner le problème de la fraternité. On devait y jouer une pièce sur Toussaint l'Ouverture. Et le jour même où nous devions partir, de graves incidents ont posé les Sénégalais et les Mauritaniens. Et la question que devait poser l'un ou l'autre des protagonistes, la question d'amorce qui était « Sais-tu quand l'esclavage a été aboli en Mauritanie ?» La réponse disait « Non, mais vers 85. » 1785, non, 1985, et ce n'est pas fini. Tu vois, on partait sur des belles bases, mais devant ces troubles, etc., on s'est dit à ce moment-là, ce film est un film qui porte un peu malheur, puisque chaque fois qu'on va faire quelque chose, ça déclenche des troubles. Alors, je ne savais pas très bien quoi faire, et l'on apprend que à Pontarlier, une troupe de théâtre allait faire une représentation théâtrale, qui s'appelait « Les inventaires de la liberté » à la gloire de Rousseau, de Mirabeau et de Toussaint l'Ouverture. Et il faisait jouer cette pièce dans le fort de Joux, ce fort qui est juste à la frontière du Jura, qui marque la route, les marches de l'Est de la France, et par là qu'arrivaient les invasions. Et c'est là que Toussaint l'Ouverture était mort de froid et de faim, condamné par Napoléon. Et je téléphone à Pontarlier, je leur demande est-ce que il y a eu des rituels vaudous qui ont été faits dans ce lieu où est mort Toussaint l'Ouverture. On me dit non, il y a de temps en temps des Haïtiens qui viennent, ils signent un livre d'or et c'est tout. Et par l'intermédiaire de Brice, qui était en contact avec des groupes haïtiens, je suis rentré en contact avec Paula, qui est une femme qui dirige un petit centre culturel à Port-au-Prince, qui s'appelle Pied Poudré, et qui s'emballe pour ce projet, qui dit, mais je vais me renseigner moi-même, si rien n'a été fait, nous allons, je vais dire à mes, aux prêtres que je connais, aux musiciens de venir, et on va rattraper ça, on va faire une cérémonie vaudou pour Toussaint Louverture. Alors là, on est parti dans un film et dans une sorte de rêve qui justifiait tout le reste. C'est que nous avions affaire à des gens qui connaissaient parfaitement leur rituel. Et à côté de ce rituel et la pièce de théâtre et toutes les représentations que nous avions vues à Versailles et un peu toutes les manifestations qui ont eu lieu paraissaient dérisoires en face de quelque chose de grave qui était directement improvisé par l'émotion considérable de ces groupes de Haïtiens qui allaient pour la première fois là où Toussaint Louverture était mort. Et je me suis trouvé, si tu veux, dans une situation qui était très proche de ce que j'ai pu faire en Afrique, où je partais pour deux jours pour faire une chasse à l'hippopotame et je restais six mois sur le fleuve, car il fallait voir la suite. Comme quand le lion, ça a duré sept ans, c'était pareil, je commençais un film sur la chasse au lion, et puis toujours, c'était pas bien, on allait continuer. Et avec des gens très étonnants, qui à Joux, à Pontarlier, à côté, ont inventé un rituel considérable. Enfin, tout était en place. On avait vu un endroit qui dominait le fort. On a fait immédiatement un sacrifice à Legba, le dieu des carrefours. On est allé au cimetière où les cendres de Toussaint Louverture ont été éparpillées, eux-mêmes dans une sorte d'état de voyance, décidé qu'une vieille tombe rouillée était la table de Toussaint Louverture. Personnellement, je pense que c'était pas celle-là, mais ça n'avait pas d'importance, une tombe est une tombe, et faisait un rituel fantastique de Baron Samedi, qui est un des rituels de près de la zombification, on fait revivre les morts. Et ceci se tournait dans une ambiance très étrange. Moi, je tournais pratiquement en plan séquence. On s'arrêtait toutes les 10 minutes, mais en 10 minutes, il se passait des événements considérables. Il y avait des gens qui venaient, c'est un dimanche après-midi, au cimetière pour porter des fleurs sur les tombes de leurs parents, qui, en entendant la musique, pensaient que c'était un rituel religieux un peu particulier, mais respectaient notre privacy. Et là, nous assistions, moi j'assistais pour la première fois à un rituel comme celui-là. Je connaissais bien les aventures de Baron Samedi qui clôt le roi Christophe de Césaire, enfin dans la pièce de Césaire, le Baron Samedi est un personnage très étonnant. Et là, il était là avec Grande Brigitte, il était là avec Baron Lacroix, etc., les maîtres des cimetières, et on était en face de quelque chose de peu compréhensible, enfin le... Ce que j'en savais, ce que je comprenais en faisant le film, était ceci. Baron Samedi est le dieu de la mort et du sexe. Et c'est le sexe qui sauve les hommes de la mort en créant de nouveaux enfants. Donc, nous étions en face de cette aventure. On va dans le cachot où est mort Toussaint Louverture. Et là, c'était une très grande émotion. Éclairé par des torches seulement, je ne sais même pas s'il y a quelque chose sur la pellicule. On raconte l'histoire de son arrestation et Toussaint Louverture se manifeste et possède l'une des femmes alors qu'on chante les chansons de cette arrestation. Et puis, le soir, on était intervenu dans la pièce de théâtre avec un petit rituel dans lequel il recevait des gens qui jouaient la pièce Toussaint Louverture, le linceul dans lequel on avait enfoui Toussaint Louverture. Bon, ils recevaient cela, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin parce qu'il n'y avait pas on n'avait pas prévu ce qu'il fallait faire pour faire le rituel suivant avec un linceul qui s'appelle Cassé Canari. Bon, Canari étant un vase, un grand vase. Alors nous rentrons dans le TGV. Et là, moi j'étais ravi, fatigué, ravi de la découverte, et en même temps un peu frustré, parce que je ne voyais pas du tout comment ça pouvait se finir. Et discutant avec Paula, je lui dis, mais est-ce que il ne faudrait pas faire un rituel semblable sur la tombe de Napoléon? Et là, elle dit tout de suite, oui, c'est évident. Et elle part dans cette notion essentielle, mais j'y ai pas pensé, c'est très important. Je découvre que Toussaint Louverture a été le frère d'armes de Napoléon Bonaparte. Ils avaient été nommés généraux de brigade de la Révolution française à quelques mois d'intervalle. Et Napoléon, conseillé par Joséphine, l'avait arrêté alors qu'il s'était battu contre les Français. Il avait été le premier chef noir indépendant. Donc, on entre dans un élément qui me semble très important, et là ressort l'ethnographie, tu m'excuseras, mais il existe en Afrique, et tout de suite on a démarré là-dessus, une institution très extraordinaire que l'on appelle, en bambara, en malinké, on l'appelle la Sénankouya. C'est la parenté à plaisanterie, c'est le cousinage, et que les anthropologues appellent l'alliance cathartique. Alors, parenté à
cousinage, sur un bout de papier.
Bien sûr, c'est très beau. Cathartique. Alors, l'idée, c'est la suivante. Les descendants de groupes qui ont fait la guerre, qui ont eu des difficultés, peuvent devenir cousins à plaisanterie, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de s'insulter, mais ils doivent se prêter assistance. Et là, on est. Alors là, tout d'un coup, c'était l'enthousiasme, et l'idée, ben, c'est extraordinaire, nous allons réconcilier le bourreau et la victime. Et nous avons fait ce rituel. J'ai eu évidemment aucune autorisation de tourner sur la tombe de Napoléon. Je voulais venir sacrifier un animal sur la tombe, un poulet noir, et on m'a dit que c'était pas pensable. Enfin, il fallait respecter les morts. Et finalement, j'ai utilisé le vieux truc d'utiliser un miroir et de faire un sacrifice sur l'image des Invalides que l'on a faite devant la chapelle des Invalides, dont le dôme venait d'être redoré à neuf. Enfin, tu vois, c'est un truc très étrange, très bien. Et là, on a fait donc ce rituel. Et à la fin, les sacrifices avaient été acceptés. Et on a cassé Canary. Le linceul de Toussaint Louverture est devenu celui de Napoléon. On l'a mis dans un vase. Et ce vase était le vase de la création du monde. À partir duquel sortirait une nouvelle race de gens dont les querelles étaient éteintes et qui avaient le droit de s'insulter, ce qui me paraît pour Haïti et la France et la Corse et autres lieux un avenir sublime. Alors effectivement, j'avais fraternité. Je n'ai rien fait sur la revue, je n'ai rien fait sur les Champs-Élysées du 14 juillet parce que ça me semblait un autre niveau, tu vois. Et puis je savais que Van der Kuyken faisait quelques images là-dessus et que Serge Moati, infatigable, se promenait sa caméra vidéo 8 partout. Alors, j'attendais, et puis tout d'un coup, le bicentenaire me dit, ben, on va y avoir un truc important, c'est le transfert des cendres de l'abbé Grégoire de Montparnasse au Panthéon. Alors là, je redémarre, et nous faisons, c'est ça, et puis après. Alors, je retrouve mon comédien qui avait joué l'abbé Grégoire 6 mois avant à Versailles, et on décide de faire une manifestation au Panthéon. On nous donne tous les accords, simplement il ne fallait pas le faire avant, on pouvait y aller pendant la répétition. Et là, la répétition, l'Africaine et l'Africain rencontrent l'abbé Grégoire qui revient du cimetière Montparnasse, et nous avions placé ça sous le je change de logement, enfin sur le rester sur ce ton banal, et il leur dit venez me voir chez moi. Alors là c'était une séquence, il faisait un froid de loup, et une séquence très étonnante parce qu'on avait commencé ce dialogue, derrière il y avait des tambours qui devaient partir, puis au moment où la phrase se terminait, bien venez me voir après demain, après que l'abbé Grégoire ait donné aux deux Africains de la terre du cimetière Montparnasse, les tambours commencent à résonner, moi je ne bouge pas, et je vois l'abbé Grégoire allant vers le Panthéon illuminé, suivi derrière par un jeune Africain, une jeune Africaine, et puis je reçois dans le dos un coup qui me fait un peu trébucher, mais on n'a pas coupé, parce que j'étais sur la ligne du défilé, on n'a pas le droit de se mettre là. Alors on m'a poussé de côté, j'ai rétabli, et apparaissent les tambours funèbres qui amenaient le Grégoire au Panthéon. Et là, le surlendemain, nous sommes retournés, Et on a vu, c'est très étonnant, parce que le cinéma devient de temps en temps un passeport pour l'imaginaire, et ce qui est absolument impossible. On n'avait pas transporté le corps de l'abbé Grégoire. Et on est allé dans la crypte qu'on lui préparait, la place qu'on lui préparait, qu'avec un peu d'irrespect, les amis africains appelaient un wagon-lit. Et on rentre dans cet espace qui était à côté de la tombe de Jean Moulin, etc. Donc, on était à la fois dans la réalité, il y avait là les tombes qui attendaient, et qui allaient être habitées, et un dialogue commence. Et l'abbé Grégoire, pour lequel ils avaient fait un essai de zombification, de le rendre vivant, repart, et dans la chapelle elle-même, dans l'église elle-même, au milieu des bougies, il dit simplement... Je vous citerai ce qu'a dit le Christ, aimez-vous les uns les autres, et ce sera désormais ma règle de vie. Donc, il improvisait quelque chose de bizarre, ce mort devenait vivant, il embrasse l'un et l'autre, et il part dans la ville. Alors, pour terminer, je ne voulais pas terminer un peu sur cette note chrétienne et animiste. Donc, on avait décidé de faire... tout le rituel de zombification au pied d'une très belle statue que j'aime beaucoup, qui est la fontaine de Carpeaux, qui est au haut du petit Luxembourg, et qui représente quatre personnages, qui représentent les quatre parties du monde, qui sont symbolisées par des femmes, une femme noire, une femme blanche, une femme jaune, une femme rouge, une indienne, tiennent le monde sur leur tête, en dessous il y a les grandes eaux des chevaux, et la femme noire a au pied un anneau qui vient d'être coupé. Et ceci déclenche chez Tamsir Dweb une réaction très étrange. Voilà, on a réussi, on a encore beaucoup de travail. Il dit, mais tu vois, je voudrais te raconter une histoire, et c'est cette femme qui me l'inspire, qui est l'histoire de conclusion du film, qui est singulière, mais que j'accepte complètement. Les cosmonautes vont voir si Dieu existe, ils arrivent à trouver cela, ils partent, ils reviennent. Quand ils reviennent, tout le monde se rassemble pour savoir s'ils ont vu Dieu. Le cosmonaute sort, il a un visage étrange, et les gens disent, vous l'avez vu, mais pourquoi vous êtes si triste? Il répond simplement, elle est noire. Alors, là, j'étais ravi, parce que tout d'un coup arrivait l'idée que Dieu était une femme noire, et donc... c'était puis après. Et ça voulait dire pour moi, à ce moment-là, avec ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'il y avait une possibilité pour continuer, bien sûr, le combat, peut-être 200 ans, avant d'avoir la liberté, mais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Alors ce film s'est fait comme ça, et le hasard jouait tout le temps, comme je te l'ai dit. C'était compliqué à monter, c'est compliqué à arranger. Le langage est souvent un peu difficile, mais il rentrait pour moi un peu dans le... C'était à la fois le cadre de si tu veux, c'est Cocorico, Monsieur Poulet, découvrant la Révolution française, et c'est les héros de Petit à Petit découvrant le Paris de mai 68. C'est un peu du même ordre. Utiliser l'actualité, utiliser un rituel républicain, et le détourner par la présence des gens qui sont là. Si tu veux, ce qu'a fait Godard, dans un bout de souffle, quand De Gaulle passe sur les Champs-Élysées et que Belmondo et Seberg l'utilisent comme un décor ou un acteur bénévole qui passait là par hasard. Mmh. Donc c'est un peu cet élément-là, et c'est comme ça que j'ai fait ce film. J'ai présenté la partie du Vaudou au dernier festival du Ciné-Forum de Berlin. Et il passait en même temps que le film de Van der Keuken. Et on était arrivé à mettre au point un très beau système de conférence de presse, qui était un peu, lui aussi, c'était pas très, il n'y avait pas beaucoup de respect dans ce que nous disions. Le film de Van der Keuken était le portrait des nouveaux pauvres, et le clinquant du dôme des Invalides, et de Napoléon, c'était un peu le portrait révolutionnaire des nouveaux riches, tu vois, et ça collait très bien, cette idée avec...
Bien, alors donc, pris évidemment sous ton verbe,
oui, c'est...
Et comme tu as raconté ce film, comme tu racontes tout, c'est-à-dire sous la forme...
C'est beaucoup mieux
que
le film, d'ailleurs, oui.
Pour quelqu'un qui dit du bien de l'improvisation, c'est formidable d'avoir une telle maîtrise des structures narratives du mythe. Je pense que j'aurais le temps de poser une question de cette première émission. Mais dans tout ce que tu dis, et je crois que tu n'as omis aucun détail concret sur ce que je suppose a été le tournage de ce film, on voit que tu es quelqu'un qui n'arrête pas de prendre date. Voilà. J'ai trouvé le mot pendant que tu parlais. C'est-à-dire que il y a d'un côté ce qui naît comme ça devant la caméra ou grâce à la caméra, une sorte de transe un peu imprévisible. Bon, ça, c'est tout ce que les gens ont écrit sur toi. Mmh. À l'époque, on parlait de cinéma vérité, ça fait très longtemps, tout ça. Et puis, ça a certainement longtemps caché ou occulté le fait qu'en fait, tu n'arrêtais pas de prendre date. C'est-à-dire que, d'une part, pendant que ton film se fait, il se passe des choses dans le monde qui, évidemment, sont l'effet magique de ce que tu fais. D'autre part, tu prends un nouveau rendez-vous pour 200 ans, tu vas 200 ans en arrière, tu plantes un arbre, quitte à le faire grandir exagérément, avec l'idée qu'il va grandir. Et donc, il y a quand même cette idée. Alors, est-ce qu'elle t'est absolument propre? Est-ce qu'elle est peut-être plus importante pour l'Afrique que pour le monde chrétien? Parce que là, on parlait du monde blanc, qui est que il faut pas que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a quand même un seul ennemi, c'est la mort. Et là, c'est paradoxal, puisque l'arbre, on le plante sous une pluie glaciale. L'abbé Grégoire, les gens meurent de froid. Le fort de Joux n'est pas d'une grande gaieté. Donc il y a quelque chose d'assez... pas morbide, mais d'assez... où la mort est très présente, oui. Hein, sur son côté monumental, etc. Et on dirait que tu... plus que jamais, alors que tu exorcises et que tu ne veux pas de la mort, mais que le seul moyen d'être sûr que quelque part elle est vaincue, c'est de prendre date avec tes films pour des choses à venir plus tard. Et également d'obliger les gens donc qui sont là, qui sont à Paris, qui sont en France, d'accepter que, disons, un petit commando qui est ton international, car elle n'est pas seulement africaine, il y a un Libanais, etc., a le droit de faire une action, comme on dit, de faire une performance qui ne gêne pas, qui ne dérange pas, qui ne veut pas occuper tout l'espace, mais qu'ils y ont également une sorte de droit absolu d'aller quelque part, de prélever un autre rituel, de l'inventer ou de le retrouver, et de là aussi de, disons, de marquer sans laisser de monument, de marquer sans laisser de traces, voilà. Je dirais que c'est un peu le paradoxe de ton cinéma. Sur la mort, comment ça se passe pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps de sa vie en Afrique? Qu'est-ce qu'il a appris sur la différence culturelle, disons, ou anthropologique, entre ce qu'on fait de la mort là-bas et ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas ici? Car ici, elle est plutôt devenue ce qu'on refoule.
Bon, Serge, la question que tu me poses est une des questions essentielles pour moi, puisque... l'une des raisons pour laquelle je suis tellement attaché à l'Afrique, c'est que j'ai rencontré des gens heureux, des Africains peut-être même terriblement misérables, mais heureux. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi ce goût du sourire, cette capacité extraordinaire pour le rire. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, c'est que ils n'ont pas peur de la mort. La mort est considérée comme la condition nécessaire pour que la vie existe, et que donc il est nécessaire que chacun fasse une vie, non pas qu'il soit exemplaire, mais qui peut être exemplaire de joie, de bonheur, de gaieté communicative, qui peut être si tu veux, moi quand je vais là, je repars pour le Niger retrouver mes vieux copains que je connais depuis toujours. Je repars dans 2 semaines et je sais les après-midi et les matinées de fou rire que nous aurons sur rien du tout, simplement parce que bon, on est encore là, on n'oublie pas les autres. Pourtant, moi, je vais là dans des conditions qui ne sont pas très très gaies. Je vais là parce que mon plus vieil ami d'Amourezika qui a joué dans tous mes films, qui était depuis Jaguar jusqu'à Cocorico. Enfin, qui était
on le voit avant Jaguar, on le voit dans Les Fils de l'eau.
Dans Les Fils de l'eau, ah, on le voit jeune. Toujours, depuis oui. toujours. Bon. Et c'est de, son vrai métier est d'être infirmier. Il a été mis à la retraite et maintenant il a ouvert une maison de soins, ce qu'il appelle une clinique, entre guillemets. Et je suis invité avec une très vieille amie également, Germaine Yetterlin. Je ne dirais pas son âge, mais c'est un âge important. Et nous sommes invités parce que Damouret a décidé d'inaugurer cette maison de soins qu'il a baptisé clinique Jane Rouche, du nom de Jane, qui nous a quittés il y a maintenant presque 3 ans. Alors, la mort est présente, tu vois, mais en même temps, on n'oublie pas. Et en même temps, nous allons là-bas, je vais voir avec Damouret, avec Moustapha Alassane, leur dire que peut-être il faudrait qu'ils viennent à Paris au mois d'octobre, à la Cinémathèque. On a projeté récemment toute une rétrospective de Claude Jutras. Or, c'est Claude Jutras, réalisateur québécois, qui a fondé le cinéma nigérien. C'est lui qui a inventé Moustapha Alassane, qui l'a amené chez McLaren. C'est lui qui est allé voir Oumaru Ganda, qui venait de tourner Moins Noir à Abidjan. C'est avec lui qu'a lieu cette espèce de dialogue permanent. Il était le photographe sur la pyramide humaine. J'allais le voir très souvent et nous étions engagé dans la même piste.
Et il a écrit un article, on a écrit, qui s'appelait « En courant derrière Rouche ».
Bon, eh bien, la course derrière Rouche s'est arrêtée avant la course de Rouche. Et là, ce que nous voulons faire, c'est un peu la même chose, c'est un rituel pour conjurer la mort, c'est d'écrire quelque chose sur Claude. Michel Brault viendrait, forcément, Johanna Hamel, qui est l'héroïne... de tout prendre viendrait, ce serait l'occasion peut-être de se dire, mais comment se fait-il que ce garçon que Truffaut avait trouvé dès le début, puisqu'il lui a donné les moyens de tourner Anna Labonne, comment se fait-il qu'il ait fait ce qu'aucun réalisateur de la Nouvelle Vague n'ait pu faire, c'est-à-dire faire un film dans lequel il est impliqué complètement, où il raconte une des histoires dramatiques de sa vie, se met lui-même en garde contre tout ce qui peut exister, accuse tendrement une mère cruelle et un confesseur gentil et bêta, pour faire quoi ? Pour repartir vers l'Afrique où il a été retrouvé la paix. Alors il y a là un chemin qui continue, et qui est, si tu veux, moi, en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, il y a un texte très beau, qui est fondatiles, qui veut dire salut d'irrémédiable, et en même temps fonda, ça veut dire salut, et chemin avec, le chemin vers l'irrémédiable. Mmh. Et le chemin vers l'irrémédiable, c'est la vie. Et la vie, c'est sans doute ça. La vie, si la mort n'existait pas, la vie ne pourrait pas exister. Donc ça, c'est, je crois, le côté très important.
Bien. Donc on est très très vite parti sur des choses d'une totale gravité. On ne... terminera pas avec Jean Rouche sur une note aussi triste bien que sereine, sereine bien que triste. Donc on se voit la semaine prochaine pour évoquer un petit peu plus globalement. Alors, où tu en es maintenant quand même, ça fait longtemps que tu fais du cinéma. Donc, merci Jean Rouche, à la semaine prochaine.
Cette émission, première partie de l'entretien Serge Danet-Jean Rouch, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 avril 1990.